C'est pourquoi je vais commencer par placer le message ou ce que Dieu a déposé sur mon cœur dans la ligne de ce que Jonathan avait dit, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si on passe tous les jours de notre vie et toutes les minutes de notre existence à se rappeler que le but de Dieu, c'est d'établir son règne sur la terre comme au ciel, on a déjà fait un bon pas en avant, parce qu'on va chercher et on va fouiller comment on peut entrer dans ce but. Et puis, tout à l'heure, j'aimerais vous demander pardon et m'excuser, je me suis retournée spontanément d'une manière peut-être un peu agressive, je vous ai dit, mais vous voulez dire, pas dire oui et amen quand vous êtes d'accord. Alors, la manière était mauvaise et je vous demande pardon, mais il y a quand même une clé. Parce que notre parole est respectée. En tout cas, Dieu la respecte. L'ennemi, quand il reste dans une phase soumise à Dieu, il doit la respecter aussi. Et quand on dit « Amen », on dit « Je suis d'accord ». Et le choix qu'on vient de faire, il n'est pas anodin. Hein. Les 10 000, c'est tentant. L'instruction de Dieu, c'est précieux. Alors, tant qu'on n'est pas d'accord, ok, on ne dit rien. Mais si on est d'accord, il faut dire « Amen ». Parce que ça veut dire que maintenant, je m'engage et l'Éternel s'engage à respecter la parole qu'on vient de faire, qu'on vient de dire. Alors ce matin, le texte que Dieu m'a déposé sur le cœur depuis le mois d'octobre, ça a été un monstre défi parce que j'avais l'impression de n'être tellement à des nues et de rien avoir saisi de sa richesse que j'avais besoin d'abord qu'il entre là avant de pouvoir vous partager quoi que ce soit. Et je veux rendre grâce à Dieu parce que j'ai de loin pas tout compris, mais alors merci Seigneur du chemin qui m'a permis de vivre et de traverser ces derniers temps, en particulier dans le camp que nous venons de vivre avec Jean-Gabriel et Patricia aux chaînes de Mamré, où Dieu a été bon et bienveillant pour que toute une bonne partie des paroles qu'on dit là, quand il dit Dieu guérit, Dieu transforme, Dieu pénètre nos cœurs, eh bien, ça a pu faire son chemin. Donc, allons dans l'écoute de Dieu pour que nous soyons attentifs à la richesse de l'instruction de Dieu et qu'on la recherche. Ce matin, nous allons porter notre regard sur notre Seigneur par le biais d'un texte prophétique. Et le texte qui m'est venu à cœur, c'est le texte d'Ésaïe 11, versets 1 à 10. Qui ne l'a jamais lu et ne le connaît pas? Alors, et qui l'a déjà lu, déjà médité? Je vous invite à les uns et les autres découvrir ce monument, cette perle, cette pépite d'or de la parole de Dieu. Et je ne prétends absolument pas en extraire toute la richesse ce matin, tant il est précieux. Je vous propose sa lecture. Puis, un rameau poussera de la souche d'Isaïe, un rejeton de ses racines portera du fruit. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de puissance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il prendra plaisir dans la crainte de l'Éternel, il ne jugera pas sur l'apparence, n'adressera pas de reproches sur la base d'un oui-dire. Au contraire, il jugera les faibles avec justice et corrigera les malheureux de la terre avec droiture. Il frappera la terre par sa parole comme par un coup de bâton et par le souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera comme une ceinture autour de sa taille et la fidélité comme une ceinture sur ses hanches. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le jeune lion et le bétail qu'on engraisse vivront ensemble et un jeune garçon les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même enclos, et le lion mangera de la paille comme le bœuf. Le nouveau-né s'amusera sur le nid de la vipère, et le petit enfant mettra sa main dans la grotte du cobra. On ne commettra ni mal ni destruction sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. Ce jour-là, la racine d'Isaïe, dressée comme un étendard pour les peuples, sera recherchée par les nations, et son lieu de résidence sera glorieux. Amen. Je vous invite à la prière. Père Céleste, je veux te louer et te bénir pour cette parole que tu as transmise par la bouche d'Ésaïe, qui a son accomplissement et qui s'accomplira en plénitude. Merci parce qu'elle a été conservée au fil des temps pour que nous puissions l'entendre encore ce matin. J'invoque ton esprit de révélation pour nous la faire comprendre, pour nous faire découvrir un bout de sa richesse, et que nos cœurs puissent être ouverts et réceptifs à ta voix, afin que nous sachions nous en approprier et le mettre en pratique. Amen. Un rameau poussera de la souche d'Isaïe, un rejeton de ses racines portera du fruit. À l'époque du roi David, le règne de David était dans la splendeur et il inaugurait un fils d'Isaïe. Isaïe, c'est le papa de David. Il inaugurait un règne selon la volonté de Dieu, selon la royauté de Dieu. À l'époque de Jésus, la maison de David, elle n'est pas plus brillante que la maison des rois de Louis XIV et des Bourbons sont brillants cette année, dans notre temps. Et pourtant, nous en connaissons des descendants du roi et de la famille royale de Louis XIV, puisque la belle-fille de Dudu et Laurence en font partie de cette famille. Et c'est de ce rejeton-là que naît le Messie. Preuve que Dieu inaugure un nouveau règne. L'Esprit de l'Éternel repose sur lui. Dans le verset 2, l'Esprit est décrit par six aspects et beaucoup y voient par là ce qui est repris dans l'Apocalypse des sept esprits de l'Éternel. Alors, je vais allumer le chandelier de la menorah reprend. Ouh là là. Reprend cette symbolique-là. Je vais juste passer. L'Esprit de l'Éternel est d'abord un tout, parce que l'Éternel est un, l'Éternel est Echad. Mais les caractéristiques ou les facettes de cet Esprit touchent plusieurs domaines. Tout d'abord, le domaine intellectuel, le domaine de l'intelligence. Il nous donne un esprit de sagesse, cette connaissance de la vraie nature des choses et de la pensée de Dieu. Cette sagesse surnaturelle qui évite de tomber dans les pièges, car elle est pure, douce, conciliante, et qu'elle nous ouvre à la perception de la sagesse de Dieu. Le deuxième pôle de ce même domaine, c'est l'esprit d'intelligence, que d'autres traductions traduisent par discernement, ce qui permet de différencier le vrai du faux. C'est une perception, une compréhension, une connaissance qui est libérée par révélation. Ces deux pôles font du Messie le parfait révélateur de la vérité et le juste juge dont la vie et la prise de position font autorité. C'est parce que nous restons, ou parce que le Messie reste dans cet esprit de sagesse et d'intelligence, qu'il permet d'apporter la vérité, la justice, et dont la vie fait autorité. Les deux autres, les deux suivants, touchent le domaine de l'activité pratique, l'esprit de conseil. L'esprit de conseil consiste à découvrir en chaque cas particulier, pour soi-même ou pour d'autres, le but qui doit être poursuivi et les moyens propres à y conduire. D'autres traductions disent « l'aptitude à décider », l'esprit qui donne l'aptitude à décider, non pas pour trancher arbitrairement, mais pour conduire de la bonne manière vers le bon but. Autre esprit qui touche au domaine pratique, c'est l'esprit de force. Dans la traduction de Second 21, il était mis « esprit de puissance ». Dans d'autres traductions, il utilise le mot « esprit de vaillance ». J'aime bien le mot « vaillance » personnellement. Parce que la force et la puissance peuvent être brutales, peuvent être destructrices d'une mauvaise manière. La vaillance apporte une connotation morale à la manière dont la force et l'action est menée. Mais cet esprit de force désigne l'énergie, la persévérance et le succès dans l'exécution du plan que l'on poursuit. La vaillance ajoute la noblesse de la force, ajoute la manière dont l'énergie est déployée. Et c'est ces deux aspects qui font du Messie le protecteur et le roi parfait sur Israël, par extension sur son peuple et l'Église. Les deux derniers touchent le domaine du divin, ou de la relation avec Dieu. Et le premier de ces aspects, que j'allume maintenant, c'est la connaissance et la crainte de l'Éternel. La connaissance de l'Éternel, c'est pas juste la mémorisation d'une somme d'informations. Mais c'est bien plus, le mot connaissance regroupe cette connaissance de Dieu puisée dans une relation intime avec lui. Une connaissance qui provient de la pénétration fécondante de l'Éternel dans notre proximité et à son contact. C'est le même mot qui est utilisé dans Adam connu Ève et l'enfanta. Est-ce qu'on saisit la puissance de cette connaissance qui enfante en nous la vie, qui féconde quelque chose en nous par cette connaissance? Son dernier pôle, c'est la crainte de l'Éternel. Là, je ouvre la question. Comment est-ce que vous comprenez la crainte de l'Éternel?
Dans ma traduction, c'est s'attacher.
S'attacher. Parce que je me suis dit, c'est quand même que le Messie ou qu'une part de l'Esprit de l'Éternel et que le Messie lui-même ait besoin de la crainte de l'Éternel. Puis je me suis dit, mais ça ne doit pas s'agir de la peur. Je vois assez mal Jésus avoir peur de son Père. Hein? L'Esprit de l'Éternel inspire et porte comme fruit la crainte de son nom. Et en fait, s'attacher est une manière de l'aborder. C'est l'obéissance respectueuse à sa volonté. C'est cet attachement qui nous conduit dans l'obéissance, qui nous conduit dans la dépendance, qui nous conduit dans le respect, qui nous conduit dans la vénération de l'Éternel. Et Jésus, en fait, ça rejoint le point que Jonathan avait aussi abordé, quand il avait dit que la première des clés, c'était la soumission. Et la soumission est impossible sans la crainte de l'Éternel. Qu'est-ce que tu vas te soumettre d'une bonne manière à quelqu'un que tu ne crains pas, à quelqu'un pour lequel tu n'as pas de respect, à quelqu'un pour lequel tu n'as pas... Alors, vénération dans le domaine humain, c'est beaucoup, mais j'entends dont tu as du respect pour l'autorité qu'il porte et pour ce qu'il t'apporte. Et Jésus a pleinement incarné cet aspect lorsqu'il déclare dans Jean 5, 19, je vous le lis, Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire par lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père. » Il était dans cette dépendance et dans cet attachement, et ça, c'était lié à sa crainte de l'Éternel, à sa vénération de son Père et de l'Esprit de l'Éternel, son Père. En fait, le double aspect de la connaissance et de l'obéissance respectueuse marque la direction constante de ses pensées, aussi bien que de ses activités. C'est dans cette disposition que les dons précédents prennent toute leur valeur. En fait, en négligeant la connaissance de l'Éternel et la crainte de l'Éternel, les autres pôles de l'action, de la force, du conseil, de la décision, de la sagesse peuvent se pervertir et puis être touchés par l'esprit du monde, ou en tout cas ne se développent pas dans leur plénitude. La suite du texte, enfin il y a déjà, on pourrait s'arrêter là en fait, mais comme le texte continue, on va continuer un peu. Le texte, dans sa suite, parle des caractéristiques de son rôle de gouvernance. Comment le Christ, le Messie, va gouverner? Et c'est touchant. Il ne juge pas sur l'apparence ou sur un oui-dire. Il vérifie, il enquête, il pose son jugement sur des faits avérés. Il n'écoute pas le mensonge. Son règne et sa gouvernance reposent sur la droiture. Et ça, c'est en opposition à la malice ou bien à l'aspect partial du parti pris. Il rend justice aux faibles. Celui qui n'a pas la force de s'opposer lui-même à celui qui est injuste, Dieu prend soin de sa justice. Je n'ai pas encore trop fouillé l'aspect... il corrigera les malheureux de la terre. Parce que je n'aime pas être corrigé. Donc, j'attends encore un peu. Mais ce qui me rassure, c'est que ça sera fait avec droiture. Ça ne générera pas d'injustice. Et puis, la justice sera comme une ceinture autour de sa taille et la fidélité comme une ceinture sur ses hanches. À quoi servaient les ceintures dans les temps anciens, à l'époque, dans leur habillement? Eh bien, elles avaient une double fonction. Elles serraient la robe qu'on prenait pour gagner de l'agilité dans son action. C'est comme ça que la vérité nous protège, dans les armes du chrétien d'Éphésiens, nous protège pour nous permettre d'être agiles dans notre intervention. Parce que quand on est encrassé dans des injustices, dans un comportement inadéquat et tout, on perd quand même de notre mobilité et de notre agilité. Et puis, elle a une deuxième fonction, c'est une fonction de parure, c'est une beauté. Quelle merveille de se dire que notre roi, le Messie, eh bien, il est paré de fidélité et de justice. Puis, dans les versets 6 à 8, il y a il y a toute une allégorie ou tout un développement sur l'effet de son règne ou de sa régence sur la population, imagé par les animaux. Et moi, je me suis longtemps contenté en se disant ça, « Waouh, ça sera géant !» Mais c'est tout. Hein? Oh, le loup et l'agneau vivre ensemble. Je n'arrivais pas à l'imaginer. L'ours et la vache dans un même pâturage. Alors, je me suis creusé en me disant, mais en fait, quels sont les changements qui sont nécessaires pour que ça se réalise? Quels sont les changements qui sont nécessaires pour que le loup et l'agneau, la panthère et le chevreau puissent paître ensemble sans avoir peur l'un de l'autre? Plus qu'une réconciliation, il doit changer le mode relationnel qui est actuellement la loi du plus fort, parce que l'un est la nourriture de l'autre. Et que quelque part, les deux ne peuvent pas subsister parce que l'un bouffe l'autre. Et combien de fois dans notre économie, on vit sur ce principe-là? Je dois développer mon commerce, mon business en bouffant l'autre. Sinon, je suis bouffé. Alors, je ne m'approche pas de ce secteur-là parce qu'il est concurrentiel et il va me bouffer. Par contre, celui-là, là, il est à ma portée et je le bouffe. Et là, tout d'un coup, c'est la fin de cette loi, de son effet être mangé ou mangé. Et en plus, ils sont conduits par un enfant. Dans toute la confiance, mais aussi dans toute la dimension où l'autorité n'est pas imposée par sa force. La vache et l'ours et leurs petits. Qu'est-ce qui fait qu'une vache et un ours ne vont pas paître dans le même pâturage? Qu'est-ce qui rend craintif l'un et l'autre? Pourquoi l'ours va défendre son pâturage et son pré? Et je me suis dit, mais c'est peut-être parce que simplement, elles ont tous les deux peur que le pâturage ne soit pas assez grand, et puis qu'on se dise, ça c'est mon espace, et il n'y a pas de raison que je le partage avec toi. Il n'y a pas de raison que là où l'ours sont petits, il a besoin de bouger, il a besoin de se défendre, de s'ébattre. Je ne vois pas pourquoi il y aurait un veau qui viendrait brouter. Et pourquoi l'herbe ne serait pas suffisante pour partager? Et c'est la fin de cette crainte de partager une même ressource, de cette concurrence qui s'installe parce que le gâteau nous paraît insuffisant pour être partagé. Et puis, dernier aspect, le nouveau-né s'amusera sur le nid de la vipère et le petit enfant mettra sa main dans la grotte du cobra. Longtemps, je me suis dit, « Ouf, ça, de toute façon, il n'y a pas besoin que ça arrive. Ah, aller mettre un bébé ou mon bébé dans le nid d'une vipère et tout. Hein? » Mais finalement, ça fait référence aux inimités. Hein? De la Genèse, Dieu met une inimité entre la femme et le serpent. Et il y a combien de domaines où on se dit, « Oh non, 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 là, on n'y touche pas. » Même s'ils n'avaient aucun désir de se nuire l'un à l'autre, « Non, non, l'araignée, ça me fait peur. Hein? » Et quelque part, ça ouvre à la fin des incompatibilités culturelles. Est-ce qu'on irait mettre un bon bourgeois bernois ou enfin suisse avec un Brésilien qui a la fougue ou je ne sais pas quoi? Enfin bref, je n'ai pas trouvé meilleur exemple, mais il y a probablement plus frappant que ça. Mais j'entends la fin des incompatibilités culturelles, des méfiances, des peurs, des inimités. Waouh ! Ça commence à faire envie, il me semble. Et puis le dernier verset. On ne commettra ni mal ni destruction sur toute ma montagne sainte. D'autres traductions, ni tort, ni dommage. Ça fait rêver, non? Ça fait envie. Alors plus que ça fait rêver, j'aimerais que ça nous pousse à courir vers ce roi majestueux qui gouverne de cette manière pour protéger et laisser s'épanouir la population qui est sous son règne. parce que Jésus règne de cette manière. Parce que le règne de Dieu et la gouvernance de Jésus conduira et conduit à ce qu'il n'y ait ni tort ni dommage. Amen. Merci. Du coup, comment est-ce que c'est possible? Comment on va en arriver là? Après la mort, en plénitude. Ou avant la mort, ici sur terre. Alors, au-delà d'une question de la perception de la fin des temps, etc., il y a le verset 9, il m'a fait boum. Parce qu'il dit ça. On ne commettra ni mal, ni destruction sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. Il y a un quart. Le petit mot quart, il nous indique que tout ce qui précède peut s'accomplir, car la condition qui est nécessaire s'accomplit. Et tout d'un coup de lire « La terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel » avec autant de plénitude que l'eau couvre la fond des mers, et à ma connaissance, mais je ne connais pas tout, mais je ne vois pas beaucoup d'océans qui aient des poches d'air ou des énormes zones où il reste de l'oxygène, où l'eau ne couvre pas le fond. La connaissance de l'Éternel. Cette connaissance qui s'accompagne de la crainte pour nous insuffler une adhérence totale au règne de Dieu, au règne du Christ. Quand j'ai ce même esprit agissant en plénitude en Jésus, nous est accordé pour animer notre vie dans une plénitude aussi complète que l'eau couvre le fond des mers. Et puis, ce n'est pas mille ciels, c'est mille la terre sera remplie de cette connaissance. Alors, je laisse à Dieu le soin de toucher nos cœurs pour la plénitude, et je suis bien conscient que je n'y suis pas, qu'on n'y est pas. Mais quand j'ai lu ça, je me suis dit, waouh, j'ai envie de connaître Dieu dans cette dimension, et j'en suis loin. Et j'en suis loin. Mais j'en ai envie. Alors, qui d'entre vous est comme moi, déchiré de prendre conscience que sa connaissance de l'Éternel est encore si lointaine que je vis que des bribes de ses promesses qui sont données à ceux qui vivent sous la régence du Christ. Et en même temps, soulevé par cette espérance que cette connaissance peut m'introduire dans une vie fructueuse, fidèle et passionnante. C'est pour ça que, quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, j'aimerais que 2020 soit placé sous cet engagement à mieux le connaître. Et à le connaître pas parce qu'on a une connaissance intellectuelle du point A au point X, mais de le connaître parce qu'on a intériorisé, intégré sa connaissance qui nous féconde, et puis qu'on a laissé s'exprimer dans nos vies tous ces aspects de son esprit. Et qu'on a appliqué dans nos domaines d'autorité son esprit, sa manière d'agir. Alors ce matin, je souhaite faire un appel à tous ceux qui souhaitent s'engager à développer leur connaissance de l'Éternel pour laisser l'esprit de l'Éternel se développer en eux dans toutes les facettes que j'ai décrites. J'appelle tous ceux qui souhaitent qu'en 2020, l'année 2020 soit placée dans l'engagement à mieux connaître Dieu. Et j'aimerais appeler tous ceux qui ont entendu et compris que ce n'est que par ce chemin que nous pourrons refléter le roi dans toute sa dimension, dans toute sa splendeur, et que nous pourrons vivre sa gouvernance dans le souffle, dans son souffle, dans tous les domaines de notre vie et dans tous les domaines où nous avons nous-mêmes autorité, parce qu'il nous la donne. Alors, très concrètement, puisque Jésus a dit que celui qui bâtit sur le roc, ce n'est pas celui qui entend la parole, mais qui la met en pratique, eh bien, j'invite tous ceux qui veulent répondre avec moi à cet appel à se lever, et s'ils en ont le désir, à s'avancer jusque-là, on va se tourner devant Jésus, symbolisé par cette croix vide, parce qu'il n'est plus sous la croix. Mais si s'engager à ça est possible, c'est bien parce qu'il y a eu l'œuvre de la croix, c'est bien parce que son sang a été versé, et que c'est pour cela que l'Esprit nous est ouvert et nous est accordé. Alors j'invite à ceux qui veulent s'avancer à le faire, et on priera. J'aimerais maintenir et offrir la liberté à chacun. Parce que Dieu va entendre le cri de notre cœur. Il sait aussi ce que ça va engager pour lundi et l'année à venir. Et puis des fois, on n'est pas prêt. Ou des fois, on se dit, mais Seigneur, c'est tellement délicat. N'allons pas au-delà de la foi que Dieu nous accorde aujourd'hui, mais entrons dans la liberté et la confiance de son appel. Père Céleste, tu nous vois là devant toi, devant ton trône, devant ta majesté, devant cette réalité que tu as été nommé Seigneur, Messie, et que toute autorité t'a été donnée, et que tu veux étendre ton règne jusqu'à ce que tous tes ennemis soient sous ton marchepied. Et Seigneur, j'aimerais d'abord dire que nous plaidons coupables. Coupable parce que ce qui a été dit ce matin n'est pas nécessairement nouveau. Nous le savions. Mais dans notre orgueil ou dans notre résistance, nous avons fait fi. Nous avons passé à côté. Nous n'avons pas tenu compte. C'est pourquoi nous venons devant toi en plaidant coupable et en invoquant ta justice pour juger ton cœur, juger nos cœurs dans la faiblesse de notre être, dans la réalité de nos vies. Mais Seigneur, si tu nous as invités à venir devant toi et que tu nous acceptes devant toi, et si nous osons nous présenter devant toi, c'est que le sang de Jésus a coulé et que tu ne nous vois plus à cause de nos fautes, tu nous vois au travers du sang de Jésus. Tu nous vois dans ce sang qui purifie, mais aussi dans ce sang qui manifeste la souffrance et la peine qui a été portée. C'est pourquoi nous recevons de ta part ce décret de ton pardon, ce décret que tu nous justifies et que tu nous accordes une nouvelle liberté et une nouvelle connaissance de ton nom. Seigneur, nous nous engageons, et je m'engage, à chercher ta face pour mieux te connaître, à développer la crainte respectueuse de ton nom et à chérir ton esprit, pour que ton règne vienne, pour que ta gloire paraisse. Et je vais encore confesser que je ne veux pas cela pour que ma vie aille mieux. Je veux cela parce que c'est que dans ton règne et sous ton autorité que la vie est viable et que la souffrance conduit à la vie aussi et que les forces nous sont données pour traverser le chemin et aller de l'avant. Seigneur, nous savons aussi que ce n'est pas en comptant sur nos forces que nous pourrons répondre à cet engagement. C'est pourquoi j'invoque le soutien, l'aide de ton esprit. Et Seigneur, j'aimerais tourner ces 7 facettes dans ce sens-là pour qu'elles nous indiquent une direction, un but, une perspective et qu'on reste aligné dans cet esprit qui est le tien, qui est unique, Echad, toi, le seul vrai Dieu. Et fais-nous la grâce de multiplier en nous la vaillance là où nous avons besoin de vaillance, le conseil là où nous avons des décisions à prendre, la sagesse là où nous avons besoin de révéler ce qui est juste et droit. Que nous puissions vivre dans la justice et dans la crainte de ton nom, et que tu nous accompagnes sur ce chemin par le souffle de ton esprit en nous. Amen.